Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin, chapitre 5. Baie Marguerite. Depuis la reprise du vent favorable, M. Bourcard pensait, avec raison, que le Saint-Enoch n'avait plus à craindre les calmes dans le voisinage du tropique du Cancer. Il atteindrait sans nouveau retard la baie Marguerite, il est vrai, en fin de saison. Les baleines qui fréquentent cette baie n'y viennent d'ordinaire qu'au moment de la naissance des baleineaux, puis elles regagnent les parages du Pacifique septentrional. Toutefois, le Saint-Enoch ayant déjà sa demi-cargaison d'huile, il était probable que les occasions ne lui manqueraient pas d'y ajouter quelques centaines de barils. Mais si le navire anglais rencontré n'avait pas, comme on le supposait, commencé sa campagne, si, comme on le supposait également, il comptait débuter dans la baie Marguerite, il était probable, vu l'époque déjà avancée, qu'il n'y pourrait faire son plein chargement. La côte américaine fut relevée le 13 mai, à la hauteur du tropique. Dès les premières heures, on eut connaissance du cap Saint-Lucas, à l'extrémité sud de cette presqu'île de la vieille Californie, qui borde l'étroit golfe de ce nom, dont la rive opposée forme le littoral de la Sonora mexicaine. En prolongeant cette côte, le Saint-Enoch passa devant plusieurs îles uniquement habitées par des cabris, des loups marins, des oiseaux de mer en bandes innombrables. La pirogue envoyée à terre avec M. Heurtaux, qui était bon chasseur, ne revint pas vide. Les loups marins, on les dépouilla pour conserver la peau. Les cabris, on les dépeça pour en retirer la chair, qui, au point de vue comestible, est de qualité excellente. En continuant de remonter le littoral à petite distance, servi par une légère brise du sud-ouest, le Saint-Enoch laissa sur bâbord la baie de la Tortue. À l'extrémité de cette baie, on aperçut au mouillage un certain nombre de bâtiments qui devaient chasser aux éléphants de mer. Le 7 mai, à 7 heures du soir, le capitaine Bourcard se trouvait à l'ouvert de la baie Marguerite, dans laquelle il comptait jeter l'ancre. Par mesure de prudence, comme la nuit ne devant pas tarder à venir, il fit mettre en panne cap au large et louvoya sous petit bord, de sorte que le lendemain, dès le lever du soleil, il était de retour à l'entrée de la passe. Le courant descendait alors contre le vent, ce qui produisait un clapotis comparable à celui qui marque les bas-fonds. On pouvait craindre que l'eau n'y fût pas assez profonde. Aussi M. Bourcard envoya-t-il 2 pirogues avec des lignes de sonde afin d'y effectuer un brassage exact. Il fut rassuré d'ailleurs lorsque les sondes accusèrent de 15 à 20 brasses. Le navire s'engagea donc à travers la passe et il eut bientôt donné dans la baie Marguerite. Les vigies n'avaient point revu le trois-mâts anglais. Peut-être, après tout, ce navire cherchait-il d'autres lieux plus fréquentés par les baleines. Personne ne regretta de ne plus marcher de conserve avec lui. Comme la baie est embarrassée de bancs de sable, le Saint-Enoch ne devait pas avancer sans d'extrêmes précautions. Ce n'était pas la première fois que M. Bourcard visitait cette baie, mais, les bancs étant sujets à se déplacer, il importait de reconnaître la direction du chenal. Aussi vint-il mouiller au milieu d'une petite anse très abritée. Dès que les voiles furent serrées, l'ancre envoyée par le fond, les 3 pirogues de bâbord se rendirent à terre, afin de rapporter des palourdes, excellents coquillages en abondance sur les roches et les grèves. Du reste, ces parages fourmillent de poissons de plusieurs espèces, mulets, saumons, vieilles et autres. Ni loups marins, ni tortues n'y font défaut, les requins pas davantage. On peut aussi s'y procurer facilement du bois, car d'épaisses forêts s'avancent jusqu'au bord de mer. La baie Marguerite mesure de 30 à 35 milles, soit une douzaine de lieues. Pour y naviguer sans avarie, il est nécessaire de suivre, sur toute sa longueur, un chenal qui, par endroit, n'a pas plus de 40 à 50 mètres de large entre les bancs ou les roches. Afin d'assurer une bonne direction, le capitaine Bourcard fit ramasser quelques gros cailloux auxquels une corde fut amarrée par un bout, tandis que l'autre se rattachait à un baril bien fermé. C'était autant de bouées que les hommes placèrent de chaque côté du chenal afin d'en indiquer les sinuosités. Il ne fallut pas moins de 4 jours, le jusant obligeant à mouiller 2 fois par 24 heures, pour atteindre une lagune profonde d'au moins 2 lieues. Pendant ces arrêts, M. Heurtaut, accompagné des 2 lieutenants, prenait terre et allait chasser aux environs. Ils tuèrent plusieurs couples de cabris et aussi quelques chacals, fort nombreux dans les bois. Pendant ce temps, les matelots faisaient provision d'huîtres très savoureuses et se livraient à la pêche. Enfin, le 11 mai, dans l'après-midi, le Saint-Enoch atteignit son mouillage définitif. L'emplacement de ce mouillage occupait à 3 encablures du fond une crique que des buttes boisées dominaient dans sa partie nord. Des autres rives plates, toutes en grève sablonneuse, se détachaient 2 langues de terre, arrondies, semées de roches noirâtres d'un grain très dur. Cette crique s'ouvrait dans le littoral ouest de la lagune, et il y restait toujours assez d'eau, même à mer basse, pour que le bâtiment n'eût pas à craindre d'échouer. Au surplus, ainsi que dans ces mers du Pacifique, les marées n'étaient pas très fortes. Ni en pleine, ni en nouvelle lune, elles ne donnaient une différence de plus de 2 brasses et demi entre le plus haut du flot et le plus bas du jusant. Cet emplacement avait été heureusement choisi. L'équipage n'aurait point à s'éloigner pour faire du bois. Un ruisseau, qui sinuait entre les buttes, formait une aiguade à laquelle il serait facile de s'approvisionner d'eau douce. Il va de soi que le Saint-Enoch ne s'était pas mis là à poste fixe. Lorsque les embarcations seraient amenées sur une baleine, soit à travers la lagune, soit en dehors, il aurait vite fait d'appareiller pour appuyer la chasse, si le vent soufflait du bon côté. 48 heures après son arrivée, un trois-mâts se montra à 4 milles au large. On reconnut sans peine le navire anglais. Ainsi qu'on l'apprit par la suite, c'était le Repton de Belfast, capitaine King, second Stroke, qui venait commencer sa campagne dans la baie Marguerite. Ce bâtiment ne cherchait point à prendre son mouillage dans la crique occupée par le Saint-Enoch. Il se dirigeait, au contraire, vers le fond de la lagune, où il laissa tomber son ancre. Mais il n'était distant que de 2 milles et demi, on ne devait pas le perdre de vue. Et cette fois, le pavillon français ne le salua pas à son passage. Quant aux autres bâtiments de nationalité américaine, ils croisaient sur les autres parages de la baie Marguerite, et on en pouvait tirer cette conclusion que les baleines ne l'avaient point définitivement quitté. Dès le premier jour, en attendant que l'occasion s'offrit d'amener les pirogues, maître Cabidoulin, le charpentier Feru et le forgeron Thomas, accompagnés de quelques matelots, vinrent s'installer à la lisière de la forêt afin d'abattre des arbres. Il était urgent de renouveler la provision de bois, tant pour les besoins de la cuisine que pour alimenter le fourneau de la cabousse. C'est là un travail de grande importance que ne négligent jamais les capitaines baleiniers. Ce travail allait être favorisé, bien que la chaleur fût déjà forte. On ne saurait s'en étonner, puisque la baie Marguerite est à peu près traversée par le 25e parallèle, et dans l'hémisphère septentrional, cette latitude est celle du nord de l'Inde et de l'Afrique. Le 25 mai, 1 heure avant le coucher du soleil, le harponneur Kardec, qui se tenait dans les barres du mât de misaine, aperçut plusieurs souffleurs à 2 milles de la crique, sans doute à la recherche de hauts fonds convenables pour les baleineaux. Il fut donc décidé que le lendemain, dès la première heure, les pirogues seraient parées, et sans doute les autres navires se disposeraient pour la pêche. Ce soir-là, Lorsque M. Filliol demanda au capitaine Bourcard si cette pêche s'effectuerait dans les mêmes conditions qu'à la Nouvelle-Zélande, il en reçut cette réponse. « Pas tout à fait, mon cher docteur, et il convient d'avoir plus de circonspection. Nous aurons affaire à des femelles, qui, si elles donnent plus d'huile que les mâles, sont plus redoutables. Lorsque l'une d'elles s'aperçoit qu'on veut les poursuivre, elle ne tarde pas à prendre la fuite. Non seulement elle abandonne la baie pour n'y plus revenir de toute la saison, mais elle entraîne les autres. Eh, allez donc les retrouver au large à travers le Pacifique. Et lorsqu'elles sont accompagnées de leurs petits, capitaine ?»« C'est alors, dit M. Bourcard, que les pirogues ont toute facilité pour les atteindre. La baleine qui suit les ébats du petit, qui s'y joint, est sans défiance. On peut l'approcher à portée de loucher et la blesser aux nageoires. Si le harpon l'a manqué, il suffit lancer les pirogues à sa suite. Dut-on s'y entêter pendant plusieurs heures. En effet, le baleineau retarde sa marche, il se fatigue, il s'épuise. Or, comme la mer ne veut pas l'abandonner, les chances sont pour qu'on se donne dans de bonnes conditions qui permettent de la piquer. Capitaine, ne disiez-vous pas que ces femelles sont plus dangereuses que les mâles ? Oui, monsieur Filliol, et il convient que le harponneur fasse grande attention à ne point blesser le baleineau. La mer deviendrait furieuse et ferait grands dégâts, se jetant sur les pirogues, les frappant à coups de queue, les mettant en pièces. De là à de très graves accidents. Aussi, après une campagne de pêche dans la baie Marguerite, n'est-il pas rare de rencontrer de nombreux débris d'embarcations, et plus d'un homme a payé de sa vie l'imprudence ou la maladresse du harponneur. Avant 7 heures du matin, on était prêt à donner la chasse aux cétacés aperçus la veille. Sans compter les harpons, lances et louchers, le capitaine Bourcard, le second, les deux lieutenants, s'étaient munis de fusils lance-bombes, toujours employés avec avantage lorsqu'il s'agit de capturer ce genre de baleine. À un demi-mille de la crique se montrait une femelle suivie de son petit, et les pirogues hissèrent leur voile afin de l'accoster sans éveiller son attention. Naturellement, Romain Allotte avait pris l'avance, et il arriva le premier à 7 brasses de l'animal. Celui-ci, qui se préparait à sonder et devait apercevoir la pirogue. Aussitôt, Ducret brandit son harpon et le lança avec une telle force qu'il s'enfonça jusqu'à la douille dans le corps de la baleine. À cet instant, rejoignirent les 3 autres pirogues, prêtes à tourner la femelle afin de la marrer. Mais, par une fatalité qui n'est point rare, le harpon se rompit et la baleine et son baleineau prirent la fuite. Il y eut alors un acharnement extraordinaire à poursuivre le cétacé, qui précédait les embarcations de 60 à 80 brasses. Son souffle, de la vapeur d'eau condensée en pluie fine, s'élevait à 8 ou 10 mètres, mais il soufflait blanc, n'étant pas mortellement blessé. Cependant, les matelots souquaient ferme sur leurs avirons. Pendant 2 heures, il fut impossible d'être à portée de piquer la baleine. Peut-être eût-on pu frapper le baleineau, si le capitaine ne s'y fût opposé par prudence. Le docteur Filliol, désireux de ne rien perdre des détails de cette pêche, avait pris place dans l'embarcation de M. Bourcard. Lui aussi partageait l'ardeur qui animait tous ses compagnons, et exprimait sa crainte qu'ils ne fussent épuisés avant d'avoir rejoint l'animal. En effet, la baleine se dérobait avec rapidité, plongeant et reparaissant après quelques minutes. Elle ne s'était pas très éloignée de la crique, 3 à 4 milles, et s'en rapprochait maintenant. Il semblait même que sa vitesse devait se ralentir, puisque le baleineau ne restait pas en arrière. Vers 11h30, un second harpon fut lancé dans l'embarcation de M. Heurtaut. Cette fois, on n'eut que peu de lignes à filer. Les autres pirogues s'approchèrent, non sans se défier des coups de queue. Dès qu'elles l'eurent attaqué avec le loucher et la lance, l'animal souffla le sang et expira à la surface de la mer, tandis que le baleineau disparaissait sous les eaux. Le courant étant favorable, la baleine fut aisément remorquée jusqu'au Saint-Enoch, où M. Bourcard fit disposer les appareaux pour la virer dans l'après-midi. Le lendemain, un canot amena un Espagnol qui demanda à parler au capitaine. C'était un de ces hommes qui font le métier de carcassier et auquel on abandonne le gras qui reste à l'intérieur de la carcasse. Lorsqu'il eut examiné la baleine amarrée au flanc du navire, il dit « C'est vraiment l'une des plus grosses qui ait été pêchée dans la baie Marguerite depuis 3 mois. »«
Est-ce que la saison a été bonne ?» interrogea M. Bourcard.
« Assez médiocre, » répondit l'Espagnol, « et je n'ai eu qu'une demi-douzaine de carcasses à travailler. Aussi je vous prie de me céder celle-ci. »«
Volontiers !»
Pendant les 48 heures qui suivirent, l'Espagnol demeura à bord et assista à toutes les opérations nécessitées par la fonte du gras. Cette baleine ne donna pas moins de 125 barils d'huile d'excellente qualité. Quant à sa carcasse, les gens du pays la conduisirent à l'établissement de l'Espagnol, situé sur le littoral de la lagune, 2 milles au-delà de la crique. Lorsqu'il fut parti, le docteur Filliol dit au capitaine « Savez-vous, monsieur Bourcard, ce que cet homme retire des débris d'une baleine ?»«
Quelques jarres d'huile, tout au plus, docteur. »«
Détrompez-vous, et je tiens de lui-même que le dépeçage procure parfois une quinzaine de barils. »«
Une quinzaine ?» s'écria monsieur Bourcard. « Eh bien, c'est la dernière fois que j'aurais été pris. » Et dorénavant, nous carcasserons nous-mêmes. »
Le Saint-Enoch séjourna jusqu'au 17 juin dans la baie Marguerite afin de compléter son chargement. Pendant ce temps, l'équipage put amarrer plusieurs baleines, entre autres quelques mâles très difficiles, sinon très dangereux à piquer, tant ils se montraient farouches. L'un d'eux fut capturé par le lieutenant Coquebert à l'entrée de la baie. Il ne fallut pas moins d'un jour et d'une nuit pour l'amener dans la crique. Pendant la durée du courant contraire, les pirogues mouillaient sur l'animal avec de petites ancres et les hommes dormaient en attendant le renversement de la marée. Il va sans dire que les autres navires se livraient également à la poursuite des cétacés, jusque dans les extrêmes profondeurs de la baie Marguerite. Les Américains, plus particulièrement, furent assez satisfaits de leur campagne. Le capitaine de l'un de ces bâtiments, les Wing de San Diego, vint rendre visite à M. Bourcard à bord du Saint-Enoch. « Capitaine, lui dit-il après avoir causé quelques instants, je vois que vous avez réussi à souhait sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. »
« En effet, reprit M. Bourcard, et j'espère achever ici ma campagne. Cela me permettra de retourner en Europe plus tôt que je ne comptais et d'arriver au Havre avant 3 mois.
Je vous en félicite, capitaine, mais puisque la chance vous favorise, pourquoi revenir directement au Havre?
Que voulez-vous dire?
J'entends que vous pourriez placer avantageusement votre cargaison sans abandonner les mers du Pacifique. Cela vous permettrait de recommencer la pêche aux îles Kouril ou dans la mer d'Okhotsk, précisément pendant les mois favorables.
Expliquez-vous, monsieur, où pourrais-je vendre ma cargaison?
À Vancouver.
À Vancouver?
Oui, sur le marché du Victoria. En ce moment, l'huile est très demandée par des maisons américaines et vous livreriez à des prix très avantageux.
« Ma foi, répondit M. Bourcard, c'est une idée, et sans doute une excellente idée. Je vous remercie du renseignement, capitaine, et il est probable que je le mettrai à profit. »
L'île de Vancouver, située dans les eaux américaines à la hauteur de la Colombie anglaise, n'est qu'à 25 degrés environ au nord de la baie Marguerite. Par bon vent, le Saint-Enoch pouvait l'atteindre en une quinzaine de jours. Décidément, la fortune souriait à M. Bourcard, et Jean-Marie Cabidoulin en serait pour ses histoires et ses prophètes de malheur. Après la campagne de la Nouvelle-Zélande et de la baie Marguerite, la campagne dans les îles Kouriles et de la mer d'Okhotsk, tout cela dans la même année. C'est du reste à Vancouver que se fussent rendus les baleiniers américains, et probablement aussi le Repton, s'ils avaient eu leur plein, puisque les cours étaient très en hausse. Lorsque M. Bourcard demanda au capitaine de Leeuwing s'il avait eu quelque rapport avec ce Repton, la réponse fut négative. Le navire anglais se tenait toujours à l'écart, et peut-être ne saluait-il pas plus le pavillon étoilé des États-Unis qu'il ne saluait le pavillon tricolore. À plusieurs reprises, cependant, il advint que la poursuite des cétacés dans la lagune ou au milieu de la baie mit en présence les pirogues anglaises et les pirogues françaises. Par bonheur, elles n'étaient pas amenées sur la même baleine, ce qui aurait pu provoquer des contestations, ainsi que cela arrive quelquefois. Et assurément, dans la disposition d'esprit où l'on se trouvait de part et d'autre, les contestations auraient pu mal tourner. Aussi, M. Bourcard ne cessait-il de recommander à ses hommes d'éviter tout contact avec l'équipage du Repton, en mer, lorsqu'ils croisaient sur les mêmes parages, à terre, lorsque les embarcations allaient faire du bois ou pêcher entre les roches. En somme, on ne savait pas si le Repton réussissait ou non, et pour tout dire, on ne s'en inquiétait guère. Le Saint-Enoch l'avait rencontré dans sa traversée entre la Nouvelle-Zélande et la côte américaine, et quand il aurait quitté la baie, il ne le reverrait sans doute pas. Parmi les cétacés capturés, il y eut un cachalot qui avait été piqué par Romain Allott à 3 milles en dehors de la lagune. C'était le plus gros que l'on eût jusque-là rencontré. Cette fois, le Repton en avait eu connaissance, et ses embarcations lui donnèrent la chasse, mais lorsqu'elles arriveraient, il serait trop tard. Afin de ne point donner l'éveil à ce cachalot, la pirogue, filant par jolies petites brises, avait manœuvré de manière à ne point l'effaroucher. Toutefois, quand le harponneur fut à bonne portée, l'animal s'immergea, et il fallut attendre qu'il remontât à la surface. 35 minutes s'étant écoulées à partir de son dernier plongeon, il resterait donc à peu près le même temps sous l'eau, et il n'y eut qu'à le guetter. Son apparition s'effectua dans le temps prévu, à 7 ou 8 encablures de la pirogue qui se lança de toute sa vitesse. Le harponneur Ducret était debout sur le tillac, le lieutenant Allott tenait son louchet à la main. Mais, en ce moment, le cachalot, sentant le danger, battit la mer avec une telle violence qu'une lame assaillit l'embarcation et la remplit à moitié. Comme le harpon l'avait atteint à droite, sous la nageoire pectorale, le cachalot s'enfonça, et la ligne lui fut filée avec une telle rapidité qu'il fallut l'arroser pour qu'elle ne prît pas feu. Quand l'animal reparut, il soufflait le sang, et quelques coups de lance l'achevèrent, sans trop de peine. Après la fonte du gras, Maître Cabidoulin porta au compte de ce cachalot 80 barils d'huile. On était à 3 jours du départ, fixé au 17 juin. M. Bourcard, se conformant à l'avis du capitaine américain, avait résolu de faire voile pour l'île de Vancouver. Le Saint-Enoch possédait alors 1 700 barils d'huile et 5 000 kilogrammes de fanon. Après les avoir livrés à Victoria, le capitaine n'hésiterait pas à entreprendre une seconde campagne dans le nord-est du Pacifique. 150 jours s'étaient écoulés depuis son départ du Havre, et la relâche à la baie Marguerite avait duré du 9 mai au 19 juin. Sa coque et son gréement se trouvaient en bon état, et, à Vancouver, il pourrait refaire ses approvisionnements. La surveille du départ, une occasion se présenta pour l'équipage d'entrer en communication avec les hommes du Repton. Voici dans quelles circonstances. Les pirogues du second et du lieutenant Coquebert avaient été envoyées à terre afin de rapporter un reste du bois abattu et faire de l'eau à l'égade. Messieurs Heurtaut, Coquebert et les matelots étaient déjà sur la grève lorsque l'un d'eux s'écria « Baleine ! Baleine !» En effet, une femelle de forte taille, accompagnée de son baleineau, passait à un demi-mille de la crique en gagnant vers le fond de la baie. Certes, il y eut unanime regret de ne pouvoir lui donner la chasse. Mais les deux pirogues, commandées pour un autre service, n'étaient pas en état, n'ayant ni harpon ni ligne. Il en était de même à bord du Saint-Enoch, qui, ses garants dégarnis, son matériel de virage démonté, se tenait pour ainsi dire en appareillage. Or, au détour de l'une des pointes de la crique qui les dérobait à la vue, deux embarcations apparurent. C'étaient les pirogues du Repton, amenées sur la baleine signalée. Comme elles se rapprochaient de terre, dans l'intention de prendre l'animal à revers, il serait aisé de ne rien perdre de ce qui allait se passer. Les deux pirogues s'avançaient rapidement, sans bruit, séparées par la distance d'un bon mille, car l'une étant partie bien avant l'autre. La première venait de mettre son pavillon à l'arrière pour annoncer qu'elle se préparait à attaquer. Quant au Repton, il attendait, sous petite voilure, à 3 milles dans l'est. Messieurs Heurtaut, Coquebert et leurs hommes gravirent une butte en arrière du ruisseau, d'où le regard pouvait s'étendre sur toute la lagune. Il était 2h30 quand le harponneur de la première embarcation se vit à bonne portée pour piquer. La baleine, qui jouait avec son petit, ne l'avait pas encore aperçu lorsque le harpon traversa l'air. Certes, les Anglais n'ignoraient point qu'il est dangereux d'attaquer un baleineau, mais celui-ci ayant passé le long de la pirogue, ce fut lui que le harpon atteignit à la lippe. Il était mortellement touché, et après quelques convulsions, il resta immobile à la surface. Comme le manche du harpon se redressait, il avait, au dire des matelots, l'air de fumer sa pipe. La poussière liquide qui s'échappait de sa bouche, imitant à s'y méprendre la fumée du tabac. La baleine, prise alors d'un accès de fureur, devint un animal des plus redoutables. Sa queue battait l'eau qui rejaillissait comme une trombe. Elle se précipita sur la pirogue. Les hommes eurent beau scier pour revenir en arrière, il ne fut plus possible d'éviter son attaque. En vain, les matelots tentèrent-ils de lui lancer un second harpon. En vain essayèrent-ils de la frapper avec le louchet et les lances. En vain, l'officier déchargeait-il sur elle le fusil lance-bombe. La seconde embarcation, se trouvant encore à 300 toises sous le vent, ne pouvait arriver en temps utile au secours de la première. Celle-ci venait d'être frappée d'un si formidable coup de queue qu'elle coula immédiatement avec ceux qui la montaient. Si quelques-uns d'entre eux revenaient à la surface, ils risquaient de se noyer, en admettant qu'ils n'eussent pas été blessés mortellement. Et qui sait si l'autre embarcation pourrait les recueillir? Embarque! Embarque! Cria M. Heurtaut en faisant signe au lieutenant de le suivre. Leurs hommes, voyant des gens en danger de périr, bien qu'ils appartinssent à l'équipage du Repton, n'hésitèrent pas à tout faire pour les sauver. En un instant, officiers, matelots, descendus de la butte, eurent traversé la grève en courant. Les deux pirogues larguèrent les amarres et, vigoureusement enlevées par les avirons, arrivèrent sur le lieu du sinistre où la baleine se débattait toujours avec rage. Des 9 hommes que contenait la pirogue fracassée, 7 seulement venaient de reparaître sur l'eau. 2 manquaient et ils étaient engloutis. Quant à la baleine, après s'être dirigée vers le baleineau que le courant avait entraîné à une encablure sous le vent, elle disparut dans les profondeurs de la lagune. En ce moment, arriva la seconde embarcation du Repton, et ce ne serait pas sans danger qu'elle pourrait recevoir cette surcharge de 7 personnes. Quant à la baleine, elle se dirigeait vers le baleineau, qui flottait à une encablure sous le vent et que le courant entraînait. Puis, après l'avoir rejoint, elle disparut avec lui dans les profondeurs de la lagune. Monsieur Heurtaut et le lieutenant
était déjà prêt à embarquer quelques-uns des Anglais, lorsque le second du Repton cria d'une voix qui dénotait surtout le dépit.
« Chacun pour soi! Nous n'avons besoin de personne! Au large !»
Et qu'on n'en doute pas, s'il regrettait la mort de deux de ses hommes, il regrettait non moins d'avoir manqué cette magnifique proie. Lorsque messieurs Heurtaut et Allot furent de retour à bord, ils racontèrent au capitaine Bourcard et au docteur Filliol comment les choses s'étaient passées. Monsieur Bourcard les approuva de cette portée au secours de l'embarcation du Repton, et quand il connut la réponse de l'officier, « Allons, dit-il, nous ne nous étions pas trompés, c'était bien des Anglais. Et ils sont bien Anglais. »
« Pour sûr, déclara le maître d'équipage, mais il n'est pas permis de l'être à ce point. »
Chapitre 6. Vancouver. L'île de Vancouver, sur la côte occidentale de l'Amérique du Nord, longue de 500 km et large de 130, comprise entre le 48e et le 51e parallèle, fait partie de la Colombie anglaise, voisine du Dominion of Canada, dont la frontière la borne à l'est. Il y a quelques 100 ans, la compagnie de la baie d'Hudson avait fondé un poste de trafiquant sur la pointe sud-ouest de l'île, près de l'ancien port de Cardoba, le Camozin des Indiens. C'était déjà une prise de position de ladite île par le gouvernement britannique. Cependant, en 1789, l'Espagne s'en empara. Peu de temps après, elle fut restituée à l'Angleterre, par un traité intervenu entre l'officier espagnol Quadra et l'officier anglais Vancouver, dont le nom figure seul dans la cartographie moderne. Le village ne devait pas tarder à devenir ville, grâce à la découverte de filons d'or dans le bassin du Fraser, l'un des cours d'eau de l'île. Devenu Victoria City, il est capitaine officiel de la Colombie-Britannique. Puis d'autres villes se fondèrent, telles Nanaimo, à 24 lieues de là, sans parler du petit port Saint-Juan, qui s'ouvre à la pointe méridionale. À l'époque où se déroule cette histoire, Victoria était loin d'avoir le développement qu'elle possède aujourd'hui. L'île Vancouver n'était point desservie par le chemin de fer de 96 km qui rattache la capitale à Nanaimo. C'est l'année suivante seulement, en 1864, qu'une expédition allait être entreprise par le docteur Brown d'Édimbourg, l'ingénieur Leach et Frédéric Whymper à l'intérieur de l'île. Cependant, le capitaine Bourcard trouverait à Victoria toute facilité pour ses transactions et aussi les ressources qu'exigerait sa nouvelle campagne de pêche. À ce sujet, aucune inquiétude à concevoir. Dès la première heure, le Saint-Enoch avait quitté son mouillage de la lagune. Aidé du jusant, il descendit le chenal de la baie Marguerite et donna en pleine mer. Des vents propices, soufflant de l'est au sud-est, lui permirent de prolonger la côte avec l'abri de la terre, à quelques milles de cette longue presqu'île de la vieille Californie. M. Bourcard n'avait point envoyé de vigie dans la mâture, puisqu'il ne s'agissait pas de chasser la baleine. Le plus pressé, c'était d'atteindre Vancouver, afin de profiter des hauts cours. Du reste, on ne signala que 3 ou 4 souffleurs, à grande distance, et dont la poursuite eût été difficile par une mer assez forte. L'équipage se contenta de leur assigner un rendez-vous aux îles Kouril et à la mer d'Okhotsk. On compte environ 1400 milles jusqu'au détroit de Juan de Fuca, qui sépare l'île de Vancouver des territoires de Washington, à l'extrémité des États-Unis. Avec une moyenne de 90 milles par 24 heures, la traversée du Saint-Enoch ne durerait qu'une quinzaine de jours, et il porta toute la toile possible, bonnette, flèche, voile d'été. Toujours la continuation des heureuses chances qui avaient marqué le cours de cette première campagne. À peu près au tiers de sa navigation, le navire boulinait à la hauteur de San Diego, la capitale de la Basse-Californie. Quatre jours plus tard, il était par le travers de San Francisco, au milieu de nombreux bâtiments à destination de ce grand port américain. « Peut-être est-il regrettable, » dit ce jour-là M. Bourcard à son second, « que nous ne puissions traiter à San Francisco ce que nous allons traiter à Victoria. »«
Sans doute, » répondit M. Heurtaud, « puisque nous serions à destination. Mais le chemin fait est le chemin fait. Si nous devons recommencer la pêche aux approches des courils, nous serons très avancés vers le nord. »
Vous avez raison, Heurtaud. Et d'ailleurs, les informations du capitaine de Lee-Wing sont formelles. À son avis, le Saint-Enoch doit pouvoir aisément se réparer à Victoria et se réapprovisionner pour plusieurs mois. Cependant, le vent, qui marquait une certaine tendance à faiblir en allant le sud, ne tarda pas à souffler du large. La vitesse du Saint-Enoch fut donc un peu ralentie. Cela ne laissa pas de causer quelque impatience à bord. En somme, on n'en était pas à 48 heures près, et d'ailleurs, dans la matinée du 3 juillet, la vigie signala le cap Flattery, à l'entrée du détroit de Juan de Fuca. La traversée avait duré 16 jours, un de plus que ne l'avait estimé M. Bourcard, le bâtiment n'ayant pas atteint la moyenne de 90 milles. « Eh bien, vieux !» déclara Maître Olive à Cabidoulin. « Nous voici à l'entrée du port, et pourtant tu ne cesses de geindre. »«
Moi ?» répliqua le tonnelier qui haussa les épaules.
« Oui, toi !»«
Je ne dis rien. »«
Tu ne dis rien, mais c'est tout comme. »«
Vraiment ?»«
Vraiment, et j'entends que ça te grouille dans la poitrine. Tu grognes en dedans. »«
Et je grognerai en dehors quand ça me plaira. »
riposta Jean-Marie Cabidoulin. Après les formalités de santé et de douane, le Saint-Enoch vint s'amarrer contre un appontement qui faciliterait le déchargement de sa cargaison. De toute façon, son séjour à Victoria durerait une quinzaine. Il ne pouvait repartir avant que son équipage eût procédé à quelques réparations en vue, soit d'une nouvelle campagne dans les régions septentrionales du Pacifique, soit d'un retour en Europe. Le second, les deux lieutenants, les maîtres, auraient donc assez d'occupations pour qu'il fût nécessaire d'y consacrer tout leur temps. Il ne s'agissait de rien moins que de mettre à terre les 1700 barils d'huile. Le capitaine Bourcard devrait, en outre, surveiller ses hommes de près. Les désertions sont à craindre en ces contrées fréquentées des chercheurs d'or, des exploiteurs de placets, dans l'île de Vancouver et sur les plaines du Caribou de la Colombie-Britannique. Il y avait précisément dans le port de Victoria deux bâtiments, le Chantenay de Nantes et le Forward de Liverpool, que la désertion d'un certain nombre de matelots laissait en grand embarras. Toutefois, M. Bourcard se croyait, autant qu'on peut l'être, sûr de ses hommes. Est-ce qu'il ne serait pas retenu par l'espoir de participer aux bénéfices de cette campagne aussi fructueuse pour eux que pour les armateurs du Saint-Enoch ? Néanmoins, une surveillance assez légère s'imposait, et les permissions de quitter le navire ne devraient être que rarement accordées. Mieux valait incontestablement donner double ration à bord après une pénible journée de travail que de voir l'équipage courir les taps et les barres où les matelots ont bientôt fait de mauvaises connaissances. Quant à M. Bourcard, il eut, en premier lieu, à s'occuper de placer sa cargaison sur le marché de Victoria. Aussi, dès qu'il eut débarqué, se rendit-il chez M. William Hope, l'un des principaux courtiers de marchandises. Le docteur Filiol, n'ayant aucun malade à soigner, aurait tout loisir de visiter la ville et les environs. Peut-être eût-il entrepris de visiter l'île si les moyens de communication n'eussent manqué. Point de route, à peine des sentiers à travers les forêts épaisses de l'intérieur. Il serait donc contraint de restreindre le cercle de ses explorations. Au total, la ville lui parut intéressante, comme toutes celles qui prospèrent si rapidement sur le sol de l'Amérique, et auquel le terrain permet de s'étendre indéfiniment. Bâti avec régularité, sillonné de rues qui se coupaient à angle droit, ombragé de beaux arbres, elle possédait un vaste parc. Et quelle est la cité américaine qui n'en a pas un et même plusieurs? Quant à l'eau douce, elle lui était fournie en abondance par un réservoir établi à 4 lieues de là et qui s'alimentait aux meilleures sources de l'île. Le port de Victoria, abrité au fond d'une petite baie, est situé dans les conditions les plus favorables. C'est le point où viennent se raccorder les détroits de Juan de la Fuca et de la Reine Charlotte. Les navires peuvent le chercher soit par l'ouest, soit par le nord-ouest. Son mouvement maritime est destiné à s'accroître dans l'avenir, comprendra toute la navigation de ces parages. Il est juste d'ajouter que, à cette époque déjà, le port offrait d'amples ressources aux bâtiments obligés de se réparer après de longues traversées, la plupart fort pénibles. Un arsenal largement fourni, des entrepôts pour les marchandises, un bassin de carénage étaient à leur disposition. Le capitaine de Leeuwing avait donné des renseignements exacts à M. Bourcard. Les cours des huiles marines étaient en hausse. Le Saint-Enoch arrivait à propos pour en profiter. Les demandes affluaient non seulement à Vancouver, mais aussi à New Westminster, importante cité de la Colombie, située sur le golfe de Géorgie, un peu au nord-est de Victoria. Deux baleiniers, l'américain Flower, le norvégien Fugue, avaient déjà vendu leur chargement. Et, ce qu'allait faire le Saint-Enoch, ils étaient repartis pour la pêche dans le nord du Pacifique. Les affaires du Saint-Enoch purent donc être rapidement traitées entre le courtier Hope et le capitaine Fourcard. La vente de la cargaison se fit à des prix qui n'avaient jamais été atteints et qu'elle n'eut point obtenu sur les marchés d'Europe. Il ne s'agissait plus que de débarquer les barils et de les transporter à l'entrepôt, où ils seraient livrés à l'acheteur. Et, lorsque M. Bourcard fut de retour à bord, « Heurtot !» dit-il au second. « L'affaire est terminée, et il n'y a qu'à se féliciter d'avoir suivi les conseils de cet honnête capitaine de Leeuwing. »«
Huile et fanon, M. Bourcard ?»«
Huile et fanon, à une compagnie colombienne de New Westminster. »
« Alors nos hommes peuvent se mettre à la besogne ?»«
Dès aujourd'hui. » »« Et en se déhalant bien, le navire devrait être en mesure de repartir dans un mois ou plus, après avoir passé au bassin de carénage. »«
En haut tout le monde !»
commanda le second, dont Maître Olive vint recevoir les ordres. 1700 barils à débarquer. C'est un travail qui ne demande pas moins d'une 8aine de jours. Même s'il s'effectue avec méthode et activité. Les appareils furent dressés au-dessus des panneaux et la moitié des matelots se répartit dans la cale, tandis que l'autre moitié s'occupait sur le pont. On pouvait compter sur leur bon vouloir et sur leur zèle, ce qui dispenserait de recourir aux ouvriers du port. Par exemple, si quelqu'un eut fort à faire, ce fut Jean-Marie Cabidoulin. Il ne laissait pas hisser un baril sans l'avoir examiné, vérifier qu'il sonnait le plein et qu'il ne donnerait lieu à aucune réclamation. En permanence, près de l'appontement, son maillet à la main, il frappait chaque baril d'un coup sec. Quant à l'huile, il n'y avait pas à s'en inquiéter, elle était de qualité supérieure. Bref, le débarquement s'opéra avec toutes les garanties possibles, et le travail se poursuivit pendant toute la semaine. Du reste, la besogne de Maître Cabidoulin ne serait pas achevée avec le débarquement de la cargaison. Il faudrait remplacer les barils pleins par le même nombre de barils vides en vue de la nouvelle campagne. Heureusement, M. Bourcard en trouva dans l'entrepôt de Victoria un stock qu'il se procura à bon compte. Toutefois, il y eut à les réparer, à les remettre en état. Gros travail, auquel les journées suffisaient à peine. Et si le tonnelier ne cessa de murmurer en dedans et même en dehors,
il le fit au bruit des 1000 coups de maillet que le forgeron Thomas et le charpentier Ferru frappaient à ses côtés. Lorsque la cale du Saint-Enoch eut été débarrassée, on procéda à un complet nettoyage de la cale et du vaigrage intérieur. À ce moment, le navire, déhalé de l'appontement, avait été conduit au bassin de carénage. Il importait de visiter l'extérieur de sa coque et de s'assurer s'il n'avait pas souffert dans ses œuvres vives. Le second et le maître d'équipage procédèrent à cette inspection. Monsieur Bourcard s'en rapportait à leur expérience. Il n'existait pas, à proprement parler, d'avaries sérieuses, seulement quelques réparations faciles, 2 ou 3 bandes du doublage en cuivre à remplacer, quelques gournables à fixer dans le bordage et la membrure, les coutures à regarnir d'étoupe, les hauts à recouvrir de peinture fraîche. Cette besogne s'effectua avec grande activité. Certainement, la relâche avant couvert ne se prolongerait pas au-delà des délais prévus. Aussi comprendra-t-on que M. Bourcard ne cessa de manifester sa satisfaction et le docteur Filliol de lui répéter « Votre chance, capitaine, c'est votre bonne chance, et si elle continue ?»«
Elle continuera, M. Filliol, et savez-vous même ce qui pourrait arriver ?»
« Veuillez me l'apprendre.
Ce serait que, dans 2 mois, après sa seconde campagne, le Saint-Enoch revint à Victoria vendre une nouvelle cargaison au même cours. Si les baleines des îles Kouril ou de la mer d'Okhotsk ne sont pas trop farouches...
« Comment donc, capitaine? Est-ce qu'elles trouveraient jamais meilleure occasion de se faire amarrer, de livrer leur huile à des prix plus avantageux ?»
« Je ne le pense pas, » répondit en riant M. Bourcard. « Je ne le pense pas. »
Il a été dit que le docteur Filliol n'avait pu pousser ses excursions hors de la ville aussi loin qu'il l'eût désiré. Dans le voisinage du littoral, parfois il rencontra quelques indigènes. Ce ne sont pas précisément les plus beaux types de cette race de peau rouge, dont il existe encore de remarquables spécimens dans le Far West. Non, des êtres grossiers, épais de tournure, laids de visage, énormes têtes mal conformées, yeux petits, bouche large, nez abominable, dont les ailes sont traversées d'anneaux de métal ou de brochettes de bois. Et, comme si cette laideur naturelle ne leur suffisait point, n'ont-ils pas l'habitude, lors des cérémonies et fêtes, de s'appliquer sur le visage un masque de bois plus hideux encore, et qui fait, au moyen de ficelles, d'horribles grimaces. En cette partie de l'île et à l'intérieur, les forêts sont superbes, très riches en pins et en cyprès, surtout. Il fut facile de s'y procurer du bois pour le Saint-Enoch. Rien que la peine de le débiter et de le transporter. Quant au gibier, il abondait. M. Heurtaud, accompagné du lieutenant Alliot, put abattre plusieurs couples de daims, dont le cuisinier tira bon parti pour les tables du carré et du poste. Là, pullulaient également des loups, des renards, des hermines, très fuyardes et difficiles à capturer, recherchées cependant pour la valeur de leur fourrure, et aussi de très nombreux écureuils à queue touffue. La plus longue excursion du docteur Filliol le conduisit jusqu'à Nanaimo, et c'est par la mer qu'il s'y rendit sur un petit cotre affecté au service entre les deux villes. Là s'élevait une bourgade assez prospère dont le port offre aux navires d'excellents mouillages. Le trafic de Nanaimo tend à s'accroître chaque année. Son charbon, d'excellente qualité, s'exporte à San Francisco, dans tous les ports de l'Ouest Pacifique, même jusqu'en Chine et à l'archipel des Sandwich. Depuis longtemps déjà, ces riches gisements étaient exploités par la compagnie de la baie d'Hudson. La houille, d'ailleurs, plus que l'or, c'est la grande, on pourrait dire l'inépuisable richesse de l'île Vancouver. Nul doute que de riches dépôts ne soient encore découverts. Quant à ceux de Nanaimo,
Ils n'exigent qu'un travail facile et lui assurent une réelle prospérité. Au surplus, l'or de cette région du Caribou, de la Colombie-Britannique, coûte cher à récolter. Et pour avoir un dollar, il faut, prétendent les mineurs, en dépenser deux. Lorsque le docteur Filliol revint de cette excursion, la coque du Saint-Enoch était revêtue d'une nouvelle couche de peinture jusqu'au liston formé d'une raie blanche. Quelques réparations avaient été faites à la voilure et aux agrès, aux pirogues, si rudement malmenées parfois par les coups de queue des baleines. Bref, le navire, après son passage au bassin, vint prendre mouillage au milieu du port et le départ fut définitivement fixé au 19 juillet. Deux jours auparavant, un navire américain entra dans la baie de Victoria et jeta l'ancre à une demi-encablure du Saint-Enoch. C'était l'E-Wing, retour de la baie Marguerite. On n'a pas oublié les bons rapports établis entre son capitaine et le capitaine Burkhard, et non moins cordiaux entre les officiers et les équipages. Dès que l'E-Wing eut été à fourcher, le capitaine Force se fit conduire au Saint-Enoch, où il reçut un excellent accueil en reconnaissance de ses bons avis dont on s'était bien trouvé. M. Burkhard, toujours heureux de faire une politesse, voulut le retenir à dîner. L'heure approchait de se mettre à table, et sans autre façon, M. Forth accepta l'invitation qu'il comptait rendre le lendemain à bord de l'E-Wing. La conversation fut très suivie dans le carré, où se réunirent M. Burkhard, M. Heurtaut, les deux lieutenants, le docteur Filliol et le capitaine américain. Elle porta d'abord sur les incidents de navigation pendant la traversée des deux navires de la baie Marguerite à l'île Vancouver. Puis, après avoir dit dans quelles conditions avantageuses il avait vendu sa cargaison, M. Burkhard demanda au capitaine de l'E-Wing si la pêche avait été bonne après le départ du Saint-Enoch. « Non, répondit M. Force, une campagne des plus médiocres, et pour ma part, je n'ai pas rempli le quart de mes barils. Les baleines n'ont jamais été si rares. » « Ceci s'explique peut-être, observa M. Heurtaut, par le motif qu'à cette époque de l'année, les petits n'ont plus besoin de leur mère, et celle-ci, comme cela, abandonne la baie pour gagner le large. « C'est une raison, sans doute, répondit M. Force. « Cependant, j'ai souvent fait la pêche dans la baie, et je ne me souviens pas de l'avoir vue si désertée à la fin de juin. Des journées entières se passaient sans qu'il y eût lieu d'amener les pirogues, bien que le temps fût beau et la mer assez calme. Il est heureux, monsieur Burkhard, que vous ayez débuté sur les parages de la Nouvelle-Zélande. Vous n'auriez pas fait votre plein dans la baie Marguerite. » « Très heureux, déclara M. Burkhard, d'autant plus que nous n'y avons guère aperçu que des souffleurs de moyenne taille. « De petite taille, répliqua M. Force. Nous en avons piqué qui n'ont pas rendu 30 barils d'huile. « Dites-moi, capitaine, demanda M. Burkhard, avez-vous l'intention de vendre sur le marché de Victoria ?»«
Oui, si les cours sont toujours en hausse. »«
Toujours ! Et ce n'est pas cette mauvaise saison de la baie Marguerite qui les fera baisser. D'autre part, on n'attend encore aucun arrivage des courils, de la mer d'Otcote ou du détroit de Bering.
En effet, dit M. Heurtaut, puisque la pêche ne prendra pas fin avant 6 semaines ou 2 mois,
et nous espérons bien en avoir une autre part, déclara Romain Allod. Mais, capitaine Force, reprit le lieutenant Coquebert. « Est-ce que les autres baleiniers de la baie Marguerite ont été plus favorisés que vous ?»«
Pas davantage, » affirma M. Force.
« Aussi, lorsque l'E-Wing est mis à la voile, la plupart se préparaient-ils à appareiller pour gagner la haute mer ?»«
Vont-ils rallier les côtes de l'Asie ?» interrogea M. Heurtaut.
« Je le pense. »«
Et on sera en nombre là-bas ?» s'écria le lieutenant Coquebert. «
Tant mieux, répliqua Romain Allod.
voilà qui vous excite lorsqu'on est à deux ou trois navires sur une baleine. Lorsqu'on appuie la chasse à briser les avirons, et quel honneur pour la pirogue qui pique la première !»«
Du calme, mon cher lieutenant, du calme !» interrompit M. Bourcat. « Il n'y a pas de baleine en vue. »«
Alors, reprit M. Force, vous êtes décidé à faire une seconde campagne ?»«
Absolument. »«
Et quand partez-vous »«
Après-demain. »«
Déjà ?» Le Saint-Enoch n'a plus qu'à lever l'ancre.
Je me félicite donc d'être arrivé à temps pour renouveler connaissance, capitaine,
dit Monsieur Force, et nous serrer encore une fois la main.
Et nous nous félicitons aussi d'avoir pu reprendre nos bonnes relations, reprit Monsieur Bourcard. Si Lee Wing fût entré dans la baie de Victoria au moment où le Saint-Enoch en sortait, cela nous aurait fait grosse peine.
Là-dessus, la santé du capitaine Force fut portée par le capitaine Bourcard et ses officiers en termes qui témoignaient d'une vive sympathie pour la nation américaine.
« Après tout, observa alors M. Heurtaud, même sans nous être revus à Victoria, peut-être le Saint-Enoch et Lee Wing auraient-ils fait de conserve une seconde campagne dans les parages des Courils ?»
« Est-ce que votre intention, capitaine, demanda M. Bourcat, n'est pas de tenter fortune au nord du Pacifique ?»«
Je ne le pourrais, messieurs, répondit M. Forth. Les Wing arriveraient un peu tard sur les lieux de pêche. Dans 2 mois, les premières glaces commenceront à se former au détroit de Bering, comme à la mer d'Okhotsk, et je ne suis point en état de remettre immédiatement en mer. Les réparations des Lee Wing exigeront de 3 à 4 semaines.
Nous vous exprimons nos sincères regrets, monsieur Force, déclara le capitaine Bourcard. Mais je voudrais revenir sur un fait dont vous avez parlé et qui exigerait quelques explications.
De quoi s'agit-il, capitaine?
Vers la fin de votre séjour dans la baie Marguerite, n'avez-vous pas remarqué que les baleines devenaient rares? Et même qu'elle montrait une hâte singulière à gagner le large.
« Cela est certain, déclara le capitaine Force,
et elle s'enfuyait dans des conditions qui ne sont pas habituelles. Je ne crois pas exagérer en affirmant que ces souffleurs semblaient redouter quelque danger extraordinaire, qu'ils obéissaient à je ne sais quel sentiment d'épouvante, comme s'ils eussent été pris de panique. » Ils bondissaient à la surface des eaux, ils poussaient des mugissements tels que je n'en ai jamais entendu.
C'est fort étrange, convint M. Heurtaud. Et vous ne savez pas à quoi attribuer...
Non, messieurs, répondit M. Force, à moins que quelque monstre formidable...
Hé, capitaine, répliqua le lieutenant Coquebert.
Si Maître Cariboulin, notre tonnelier, vous entendait, c'est le grand serpent de mer, s'écrierait-il.
Ma foi, lieutenant, répliqua M. Force, que ce soit ou non un serpent qui les ait effrayés, les baleines se sont sauvées en toute précipitation.
Et, repartit le lieutenant à l'hôte, on n'a pas pu leur barrer le chenal de la baie Marguerite, en piquer quelques douzaines ?
Je vous avoue que personne n'y a songé, répondit M. Forth. Nos pirogues ne s'en seraient pas tirées sans grand dommage et peut-être sans perte d'hommes. Je le répète, il s'est passé là quelque chose d'extraordinaire.
À propos, demanda M. Bourcard, qu'est devenu ce navire anglais, le Repton ? A-t-il fait meilleure pêche que les autres ?
Non. « Autant que j'ai pu le savoir, capitaine. »«
Pensez-vous qu'il soit resté dans la baie Marguerite ?»«
Il se préparait à partir lorsque Lee Wing a mis à la voile. »«
Pour aller ?»«
Pour aller, d'après ce que l'on disait, continuer sa campagne dans le nord-ouest du Pacifique. »«
Eh bien, » ajouta M. Heurtaud, « puissions-nous ne pas le rencontrer ?» La nuit venue, le capitaine Force regagna son bord, où il reçut le lendemain M. Bourcard et ses officiers. Il fut encore question des événements dont la baie Marguerite avait été le théâtre. Puis, lorsque les deux capitaines se séparèrent, ce fut avec l'espoir que le Saint-Enoch et Lee Wing se reverraient quelques jours sur les parages de pêche.